français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Les carottes sont cuites, je répète. Les carottes sont cuites.
Je répète.
Le loup est dans la bergerie. Je répète. Le loup est dans la bergerie. Le groove perdu va commencer. Je répète. Mettre perdu. Perdu.
À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Nous serons donc à 63 ans et 3 mois à la fin du quinquennat. Parallèlement, nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation prévus par la réforme Touraine pour partir avec une retraite à taux plein, mais nous atteindrons cette cible plus vite en passant à un rythme d'un trimestre par an. Nous serons à 43 ans en 2027. Enfin, nous maintiendrons à 67 ans l'âge auquel les personnes peuvent partir à la retraite sans décote, quelle que soit leur durée de cotisation. C'est essentiel pour celles et ceux qui ont eu une carrière hachée ou incomplète, et je pense ici particulièrement aux femmes.
Pas de décaler l'âge de départ à la retraite.
Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ?
Je ne crois pas.
Dans les 5 ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Ça n'est pas juste et les sacrifiés, ce sont ceux qui ont aujourd'hui autour de 60 ans.
Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ?
Je ne crois pas.
Je ne crois pas pour deux raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Et pourquoi ? Parce qu'on a dit, on laisse 62 ans comme âge légal, parce qu'on fait une réforme beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, qui est de créer ce nouveau système par points, qui va remettre de la confiance, qui va permettre de corriger les vraies injustices du système, qui sont les régimes spéciaux, les avantages particuliers de telle ou telle catégorie, qui sont parfois très coûteuses et qui sont des... aujourd'hui des vraies inégalités qu'on ne sait plus justifier. Et ça, c'est beaucoup plus profond, plus ambitieux, il ne faut pas le compromettre en bougeant l'âge légal. Et la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. C'est-à-dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite.
Devra-t-on travailler plus longtemps en 2023 ? Là aussi, comme je m'y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Il nous faut travailler davantage, c'est le sens même de la réforme de l'assurance chômage qui a été portée par le gouvernement et votée par le Parlement. C'est aussi le sens de cette réforme sur laquelle le gouvernement, avec les partenaires sociaux et le Parlement, à travailler dans les mois qui viennent pour finir de mettre en place des nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin de l'été 2023. L'objectif est de consolider notre régime de retraite par répartition qui, sans cela, serait menacé car nous continuons de financer à crédit. Pour ce faire, l'allongement de nos carrières de travail sera progressif. Il se fera par étapes sur près de 10 ans. Il sera aussi juste, en tenant compte des carrières longues, des carrières hachées, de la difficulté de certaines tâches, de certains métiers. Mais c'est cela qui nous permettra d'équilibrer le financement de notre retraite
dans notre pays, et c'est une chance où l'on vit plus longtemps, d'améliorer la retraite minimale pour toutes celles et ceux qui ont travaillé afin d'avoir tout leur trimestre, et de transmettre à nos enfants un modèle social juste et solide, parce qu'il sera crédible et financé dans la durée.
Clément Viktorovitch avec nous pour Entre les lignes. Bonjour Clément.
Bonjour Jules.
Docteur en sciences politiques, on lit entre les lignes, hein, d'un grand débat d'actualité, un grand débat politique du moment. C'est évidemment la réforme des retraites qui nous intéresse cette semaine, puisqu'elle a été présentée par la Première ministre Elisabeth Borne. Pour vous, c'est une réforme idéologique?
Oui, il me semble, oui. En tout cas, c'est au moins une réforme importante. Après tout, les retraites, ça fait partie de ces rares enjeux qui impactent directement la vie de tous les Français. Mais je vais essayer de vous expliquer que cette réforme, elle est en fait encore plus importante que ce qu'on croit. Commençons par le commencement en rappelant que, oui, si on suit les prévisions du Conseil d'orientation des retraites, le régime risque effectivement d'être en déficit sur les 20 à 25 années qui viennent. Alors, un déficit temporaire, un déficit limité, mais un déficit quand même. Et si c'est le cas, il va bien falloir le combler. Toute la question, c'est comment. Et là, de nombreuses options étaient sur la table. On aurait pu mettre à contribution les entreprises, on aurait pu fiscaliser l'épargne salariale, augmenter légèrement les cotisations. Bref, il y avait plein de solutions. Le gouvernement a choisi de reporter l'âge de départ, ce qui revient avant toute chose à faire travailler plus longtemps les personnes qui ont commencé à travailler le plus tôt.
Qu'est-ce qui explique ce choix d'après vous ?
Eh bien voilà toute la question. Qu'est-ce qui explique en effet ce refus absolu de ne serait-ce que considérer une autre source de financement ? Eh bien je vais vous répondre. Parce que derrière, l'enjeu, c'est notre modèle de société. Et pour le comprendre, il faut remonter d'un cran en posant une question que personne ne pose. C'est quoi au fond la retraite ? Alors, en pratique, bien sûr, c'est simple. La retraite, c'est quand on arrête de travailler. Mais d'un point de vue socio-économique, c'est en fait beaucoup plus compliqué. Les sociologues Bernard Friot et Nicolas Castel nous expliquent qu'il existe en réalité deux conceptions concurrentes de ce qu'est la retraite. Dans une perspective libérale, la retraite, c'est du revenu différé. Toute leur vie, les travailleurs consacrent une part de leur salaire aux cotisations retraite et quand ils sont trop vieux pour travailler, ils touchent une pension qui dépend de ce qu'ils ont cotisé au cours de leur vie et qui leur permet de bénéficier d'une période de repos et de loisirs avant la mort. Mais il y a une autre manière de voir les choses qui consiste à envisager la retraite non comme du revenu différé, mais comme la continuation du salaire tout au long de la vie. La collectivité décide de se cotiser pour que tous les travailleurs, à un moment de leur vie, puissent bénéficier d'un temps libéré. Les individus continuent de percevoir leur salaire, qui leur permet de décider eux-mêmes de quelle manière ils veulent être utiles, contribuer, exister au sein de la société.
On comprend qu'il y a deux conceptions différentes, le revenu différé ou le salaire continué. Ça semble quand même très très théorique.
Oui, je sais Jules, on dirait que je suis en train de couper les cheveux en quatre. Mais sauf qu'en fait, pas du tout. En France, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est en fait assez largement le second modèle qui s'impose, la retraite comme salaire continué, et ça a des conséquences pratiques. C'est pour ça, par exemple, qu'on a décidé de calculer le montant des pensions de retraite sur les 6 derniers mois des fonctionnaires et les 10 meilleures années des salariés, pour que leur retraite soit une continuation de leur meilleur salaire. C'est pour ça qu'à l'époque, on a indexé les pensions de retraite sur les salaires, pour que le pouvoir d'achat des retraités suive la même évolution que celui des autres salariés. C'est pour ça qu'on a pris la décision d'avancer l'âge de la retraite à 60 ans pendant le septennat de François Mitterrand pour que les travailleurs disposent d'un temps de liberté toujours plus grand. Pour la société, les conséquences sont extrêmement concrètes. C'est grâce à cela, par exemple, que la France bénéficie d'un tel tissu associatif. Un tiers des retraités sont bénévoles dans une ou plusieurs associations. C'est l'équivalent tout de même de 90 000 emplois temps plein. C'est là-dessus aussi que repose une grande partie de nos vies familiales en France. Les grands-parents assurent 23 millions d'heures de garde d'enfants par semaine, c'est-à-dire autant que les assistantes maternelles.
Ce qui justifie donc l'idée de ce salaire continué pour tous ces services rendus, est-ce que c'est toujours le modèle qui domine actuellement ?
Eh bien justement, Jules, de moins en moins, les réformes qui se sont succédées depuis les années 90 ont visé à détricoter cette conception initiale de la retraite. Les pensions, aujourd'hui, ne sont plus indexées sur les salaires, mais sur les prix. Elles augmentent donc moins vite. Dans le privé, elles ne sont plus calculées sur les 10 meilleures années, mais sur les 25 dernières. Le taux de remplacement, c'est-à-dire l'écart entre ce que vous touchiez comme salarié et ce que vous touchez comme retraité, n'a cessé de se creuser. Les travailleurs sont de plus en plus incités à prendre une épargne complémentaire. Bref, tout cela va dans le sens d'une conception très libérale de la retraite. Et il en va de même pour la réforme actuelle. En exigeant que ce soit les travailleurs qui, en travaillant davantage, équilibrent à eux seuls les déficits du système, le gouvernement assume et affirme sa conception des retraites comme un revenu différé. Et tant pis si, quand vous pouvez enfin vous arrêter, vous êtes trop malade ou trop abîmé ou trop fatigué pour utiliser votre temps comme vous l'auriez voulu. Au contraire, le gouvernement aurait pu décider de faire ce que la France a fait en réalité durant toute la seconde moitié du XXe siècle, c'est-à-dire augmenter très légèrement et très progressivement les cotisations des salariés ou des entreprises sur de longues années pour, coûte que coûte, préserver ce temps libéré, ce temps non subordonné à la fin de la vie. C'est bien la preuve que la réforme du gouvernement n'a rien de pragmatique, elle est idéologique. Et ce n'est pas un gros mot, elle promeut une certaine vision, en l'occurrence une vision libérale, de la société. Est-ce que cette vision nous convient ? Ça, en revanche, c'est à chacun et chacune d'entre nous qu'il appartient désormais de le décider.
Et mise en perspective, mise en sens de ce débat d'actualité, la réforme des retraites avec votre regard, Clément Viktorovitch, avec nous tous les dimanches sur France
Quand
Info.
Quand on pouvait, bon an, mal an, partir à l'âge de 60 ans, à la retraite, on mettait son plus beau costard pour faire honneur au pot de départ où l'on nous offrait par égal une épuisette. On pouvait partir en croisière, aller pêcher dans les rivières, truite et ablette. Oui, on en profitait pleinement avant de devenir impotent, grabataire et incontinent, arthrose, diabète. Aujourd'hui c'est moins folichon et l'on nous monte le bourrichon sur les retraites. D'après des experts avertis, certains sont beaucoup trop nantis et faut faire des économies. Fini la fête. On a été bien trop coulant de Léon Blum à Mitterrand. Ce qu'on était bête. On ignorait que le progrès, c'était de bosser sans arrêt. Qu'on n'était pas là pour se marrer. C'est la compète. On croyait même que le bonheur, c'était de faire les 35 heures. Arrête Cosette. Sache que le travail, c'est la santé, c'est pas de prendre des RTT. Et puis la pénibilité, c'est obsolète. Désormais, votre seul avenir, c'est de turbiner sans mollir. Baissez la tête. Au lieu de mourir au champ d'honneur, clamser devant l'ordinateur, l'entreprise offrira des fleurs et adieu la retraite.
On appelle un prof émérite. Alors c'est très chic, mais ça veut dire simplement en retraite. Je suis un prof en retraite de sociologie du travail que j'ai exercé pendant 10 ans à Nanterre. Et auparavant, j'étais économiste du travail en Lorraine. Comme aujourd'hui, j'étais entièrement pris par une journée de formation à la fac ou à l'île du Saucy. J'ai pas pu lire les commentaires syndicats. Je ne les connais pas. C'était alors là une réflexion de fond hein, sur le statut de salarié, qu'est-ce que ça veut dire, sur le salaire, et sur le fait que le mouvement décisif, disons, du XXe siècle, ça a été de désolidariser le salaire de l'emploi hein, et d'attribuer, par exemple, un salaire aux retraités. Mais cette désolidarisation, elle se vaut aussi pour les fonctionnaires, puisque les fonctionnaires, ils ont un salaire qui est lié à leur personne, hein, pas à leur poste de travail, comme dans le privé où le salaire il est lié au poste de travail. Et c'est pour ça que les fonctionnaires ont conservé leur salaire pendant le confinement. Et la retraite a été constituée comme ça aussi. C'est comme ça que Croizat, en 1946, construit la retraite du privé. La retraite du privé, le régime général, c'est la poursuite d'un salaire de référence. Aucun compte n'est tenu des cotisations, aucun. C'est pas parce que j'ai cotisé que j'ai droit à pension. J'ai droit à pension parce que le travailleur, c'est plus simplement celui qui est dans l'emploi, hein. C'est celui qui, hors de l'emploi, a droit à son salaire. Ce qui veut dire que le salaire n'est pas la récompense d'un travail, comme dans le capitalisme, où on paye à l'acte, hein. Le capitalisme, c'est le paiement à l'acte. Le salaire n'est pas la récompense d'un travail, le salaire c'est la condition d'un travail. C'est pas le résultat, c'est un préalable. Et là, mais sortir de l'idéologie du mérite c'est très compliqué parce que la bourgeoisie nous a biberonnés à l'idée que le salaire ça se mérite. L'enjeu décisif pour les réformateurs c'est de supprimer ce droit au salaire pour les retraités, hein, de dire, mais non, ils ont droit au différé de leur cotisation. C'est j'ai cotisé, j'ai droit. Alors que la retraite n'a pas du tout été construite comme ça, elle a été construite comme droit au salaire hein, pour des gens qui n'ont pas d'emploi. Le chômage aussi a été construit comme droit au salaire pour des gens qui n'ont pas d'emploi. Hélas, nos organisations touchent très peu de public populaire. Donc c'est extrêmement important que ça se passe dans un centre social, d'un public populaire. C'est fondamental, oui, bien sûr, oui. Et si toutes les personnes de ce quartier avaient de toute façon 1700 euros à 18 ans, hein, le premier niveau de qualification, quel que soit leur passé scolaire, etc., que le salaire devenait un droit politique, alors ça suppose une autre école hein, qui prépare la responsabilité économique, on ne va pas comme ça diffuser 1700 euros à des jeunes qui n'ont été pas du tout formés à la responsabilité économique, etc. Mais imaginez ce que ça peut donner. Ça rend les petits boulots inutiles. Ça change complètement la donne dans le rapport au travail de la population. Je suis absolument scandalisé par cette imposition faite aux jeunes de situations qui ne respectent pas les grands conquis du XXe siècle, c'est-à-dire le salaire de la convention collective. Qui sont des CDD de mission, qui sont des... En plus, invoquer la citoyenneté pour faire bosser des gens sans les payer, moi je trouve ça répugnant, tout simplement. Donc c'est très facile de faire le lien. Hein, parce que précisément, les retraités sont des gens qui sont payés alors qu'ils n'ont pas d'emploi. Et là, on a des jeunes qui ont un emploi et qui ne sont pas payés. Et donc, précisément, la généralisation du statut de retraité devrait concerner tout le monde. De 18 ans à notre mort, nous devrions avoir un salaire, quelle que soit notre activité. On sait que de toute façon, à 60 ans, il n'y a plus que moitié d'actifs parmi les gens, enfin, moitié de gens qui sont dans l'emploi à 60 ans, et donc reculer indéfiniment l'âge de la retraite, c'est augmenter le moment la durée du moment où on est entre l'emploi, le chômage, les petits boulots, ni retraité, ni dans l'emploi, un peu chômeur, et encore une fois, la proie de toutes les invitations à se mettre comme entrepreneur, à accepter des petits boulots. C'est scandaleux de livrer au marché du travail des gens fragiles sans leur accorder le droit à la retraite. C'est inadmissible.
La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on s'est battu pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on s'est battu pour la garder.
du bricolage, les mots croisés, et puis du sport, et aussi du souci en colère. Qu'ils prennent l'apéro entre amis, qu'ils en dégueulent à la minuit. La retraite, à 60 ans, on s'est battu, plein d'années, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu, plein d'années, on se battra pour la garder.
La question, c'est pas combien il y a de jeunes, combien il y a de vieux, on s'en fout. La question, c'est est-ce que ceux qui bossent là fabriquent la richesse suffisante pour payer ceux qui sont là? C'est la seule question qui va. La richesse sera-t-elle produite, oui ou non?
Même s'il n'y a qu'un seul jeune pour financer tout le PIB, ça passe.
Alors, on est en 2010 à 1,7% de croissance, qui est vraiment, on a pris exprès Frio, c'est la démonstration de Frio, il prend exprès les perspectives les plus basses des chiffres officiels du gouvernement. Faut pas qu'on puisse lui dire, d'accord, il prend 1,7, c'est-à-dire, là c'est pas en 17 ans, c'est avec 2,5%, là c'est 40 ans.
Donc ça, faut bien retenir pour vos prochains repas de famille, surtout pour le père.
Ça, faut apprendre à le faire sur la nappe. Hein.
Le PIB en 2010, 2 000 milliards d'euros, richesse produite en France chaque année. En 2010, cette année, pour financer les retraites, il faut 13%. 13% de la richesse produite en France pour payer les retraites.
Ce qui nous donne un coût des retraites de
260 milliards. Ça, c'est ce que ça coûte aujourd'hui. Et là, ils nous disent... Ils nous disent, en 2050, il faudra 720 milliards. C'est foutu.
Pas, tu vois pas l'effort qu'il faut leur demander.
On est cuit.
Mais 720 milliards de quoi?
Eh ben, du PIB, de la richesse produite en une année en France.
En 2040.
Sauf que quand on passe en 2050, avec 1,7% de croissance, hypothèse basse, on arrive à 4 000 milliards d'euros. Ce qui veut dire que le coût des retraites, d'accord, il aura un petit peu augmenté, il sera de 18%.
Comprenez l'astuce, ils nous disent qu'il va falloir passer de 13% de la richesse à 18%, et donc c'est une charge insupportable. Évidemment, quand on reçoit ça, on croit que c'est 18, de 13 à 18 du même gâteau. On croit qu'il faut faire ça. Mais pas du tout, le gâteau il est devenu énorme.
Donc là, exercice pour le repas de famille, 2000 milliards moins 260. Ça égale, fait... il reste combien? 1740 milliards, ça c'est aujourd'hui. Même question pour 2050. 4000 milliards moins les 720 milliards pour les retraites, il reste combien? 3280 milliards! Ah, il reste des sous! Ah, il en reste pas mal, dis donc!
Ah, mais ils en ont encore!
On pourrait peut-être avoir notre part du gâteau!
Non, parce qu'on était inquiets pour eux.
Bien, faut arrêter avec les gâteaux, hein. Moi, je vous rappelle le slogan de 68, nous ne voulons pas une part du gâteau en plus, nous voulons toute la putain de boulangerie. Frio va même plus loin, il chiffre si on revient sur toutes les défaites précédentes. D'accord? On revient tous à 37,5 annuités. Départ à 60 ans. On revient sur la réforme Balladur, qui fait qu'on va calculer la retraite dans le privé, non plus sur les 10 meilleures années, mais sur les 25 meilleures années, ce qui pète le montant des pensions. Ok? On revient sur tout ça. On revient sur la réforme des complémentaires. Il suffit de rajouter 3%. Donc il faut monter à 21% pour pouvoir refinancer la totale.
Marc, okay.
21. 3 plus 18, 21, ça va? Mon Dieu.
Alors c'est là où c'est intéressant, c'est que le mouvement historique des retraites, c'est une augmentation régulière de la cotisation patronale, la cotisation vieillesse, ok? Elle augmente gentiment de quelques 0%, d'accord, pour suivre les besoins. Ça n'a jamais posé aucun problème à l'économie française.
Le débat que nous avons ouvert est un moyen pour les concitoyens de découvrir, pour beaucoup d'entre eux, ce qu'est le système de retraite. Là, les choses seront toujours douces, transparentes et claires.
Une réforme douce que chante le gouvernement. N'ayez pas la frousse, vous n'êtes plus des enfants. Une retraite douce qui sera pour toi si t'es vieux. Et si sans secousse, t'as survécu de ton mieux. À l'amiante et aux particules fines, au harcèlement, aux pesticides. Aïe, 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 aïe. Au burn-out et aux plans sociaux, aux humeurs du chef de bureau. À Pascal Pro. Une douce réforme qui est déjà ficelée. Même si pour la forme, on fait semblant de consulter. Cette réforme douce que nous promet de le voir. Vas-y, suce ton pouce, c'est trop compliqué pour toi. Âge minimum, taux bas et taux plein, des codes trimestres, valeur du point. T'y comprends rien. Retiens seulement que l'âge pivot, c'est l'âge de ta mise au tombeau. Ça, c'est pas de peau. Une réforme douce et plus de régimes spéciaux. Ouh, ceux qui se tournent les pouces vont enfin se mettre au boulot. Oui, y a pas de mystère, faut travailler plus longtemps. Même Michel Drucker doit encore bosser 10 ans. Doit encore bosser 10 ans. Doit encore bosser 10 ans. Merci pour ce bon moment. La lambrasse était dément. On se retrouve dans un instant. Notre CD vous attend. Il est presque à prix coûtant. Il nous en reste 1500. On le dédicace plus, c'est chiant. Toi, je t'ai trouvé excellent. Oh non, oh si, vraiment. Je boirais bien un petit coup de blanc.
C'est peut-être un peu long, franchement.
Barbarin, c'est émouvant. Tu le diras à ma maman.
Ce qui me pose un énorme problème actuellement, et c'est quelque chose qui m'obsède en fait, c'est le problème de la connaissance. C'est-à-dire que ce qui est très impressionnant aujourd'hui, c'est que, évidemment, par rapport à l'époque où j'ai commencé mes études d'économie, on a un accès aux données, aux statistiques, qui est absolument sidérant. Et pourtant, il y a des données de base sur l'ensemble des problèmes qui ne sont pas connues. Et donc, par exemple, sur les retraites. Sur les retraites, il se trouve que c'est un sujet où l'action publique a agi, Hein, et donc, il y a quelqu'un que tout le monde a oublié, effectivement, qui s'appelle Lionel Jospin, qui avait mis en place un fonds de réserve pour les retraites. Ce fonds de réserve, il est doté de plus de 30 milliards.
35, je dirais même.
Voilà. Ouais. Mais il y a des engagements qui font que, bon. D'autre part, les systèmes de retraite complémentaires ont eux aussi des fonds de réserve. Et le président du Conseil d'orientation des retraites, qui est censé être quand même la personne qui connaît le mieux l'état des retraites en France, nous dit ces fonds de réserve, leur total, c'est 116 milliards d'euros. Donc, au bas mot, on a...
que j'avais en tête aussi.
Voilà. Au bas mot, on a 150 milliards de réserves pour les retraites.
Il y a un petit problème, Gilles, dans votre...
Non, non, mais...
Dans la fondation... Non, non, continuez, mais... continuez.
Mais alors, j'ai pas fini. Qui se souvient de la CADES ?
Moi.
Bah oui.
96.
On suit au sujet.
Création de la caisse d'amortissement de la dette sociale financée par la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale dont la durée de vie a été prolongée en théorie et ne peut plus être prolongée au-delà de 2024.
20 sur 20. Hein.
Ouais. Élève d'ose, vous avez les félicitations du jury.
Merci.
Donc en 2024, effectivement, la CADES.
Mais attendez, j'ai pas présenté les autres en fait.
Non, non, mais attendez, je finis. Parce que c'est quand même incroyable.
On sait même pas qui est Gilles Raveau là pour l'instant.
Oui, mais c'est pas grave. Ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que ça, c'est une chose, information que chacun peut vérifier sur Internet facilement. Donc la CADES, effectivement, aura fini de rembourser la dette de la Sécu en 2024 et dégagera au minimum encore 24 milliards d'euros. Le président de
Elle
la CADES.
Elle dégagera 24 milliards.
Mais oui, et oui, et oui. Jean-Louis Rey déclare. Aucun gouvernement n'a eu à arbitrer une telle manne. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, et donc c'est là qui est quand même sidérant, je suis désolé de décevoir tout le monde, mais en fait il n'y a pas
les milliards
de problème
là.
De les financement des retraites. Et je pourrais continuer longtemps comme ça en expliquant qu'avec une politique d'emploi un peu moins débile, en créant des emplois et en augmentant les salaires, on finance les retraites mais hyper large. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu plein de réformes des retraites.
Oh là, oui.
Et qu'en fait, les gens qui arrivent à la retraite aujourd'hui le constatent, les retraites ont vachement baissé. Et en fait, le vrai problème des retraites, c'est la pauvreté des vieux qui va arriver de façon évidente dans les prochaines années.
Avec qui n'est pas plus, massive aujourd'hui.
Qui n'est pas du tout massive aujourd'hui. Qui est la plus grande réussite de l'histoire sociale de la France. Parce qu'avant, quand on était vieux, soit on avait du patrimoine, soit on était pauvre, et la grande majorité des gens étaient pauvres. La première réussite de notre système social, c'est qu'on a un taux de pauvreté parmi les vieux qui est effectivement un des plus bas du monde et un des plus bas de l'histoire, évidemment.
Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre, en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant, ni l'air jaloux, ni l'air méchant, il retournait le chant des autres, toujours bêchant, toujours bêchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier chant, de labourer son dernier chant, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps.
Chez nous, pas de débat ni de grève stérile comme chez nos voisins français. Il leur a suffi de quelques jours pour que le gouvernement Macron impose un système de retraite universel accepté par tous. Ce nouveau système, géré par la Grolandaise des Jeux, permet à tout un chacun de cotiser selon ses envies.
Un trimestre. Un retraiteur, s'il vous plaît.
Un retraiteur, voilà.
Deux trimestres.
Ah, dommage.
Un jeu de grattage ouvert à tous qui permet de gagner des trimestres et, pour les plus chanceux, une retraite complète.
Moi qui n'avais jamais cotisé, jamais. C'est... Je suis ému, quoi. Allez, c'est la mienne.
Un nouveau système plébiscité et surtout équilibré, puisque les heureux gagnants retraités d'aujourd'hui sont sûrs d'être financés par les malheureux perdants d'aujourd'hui. Ce qui est loin d'être le cas dans le système français.
Réforme des retraites au Groland, la pénibilité de certaines professions est au cœur des revendications. Nous avons rencontré Brumule Frafrieux qui nous évoque la difficulté qu'il rencontre à exercer sa profession à 60 ans passés.
Eh bien moi j'ai commencé les crash tests à 22 ans, j'en ai 60. Je me mange jusqu'à 50 crashs par semaine pour un salaire de 1200 euros net. Bah moi je me vois pas continuer encore 2 ans. Et puis la pénibilité c'est pas que physique, hein. Vous imaginez l'angoisse à chaque coup de tampon. Et puis on n'est pas les seuls, hein. Il y a les bibindons Michelin, les épouvantails, les macabées articulés, les personnages de la crèche, les Pères Noël gonflables. Moi je peux vous dire que si on descend tous dans la rue, ça va chauffer.
Cette gentille mamie qui arpente les rues d'une ville dont nous tairons le nom est considérée par beaucoup comme une sainte. Elle rend service.
Pour compléter ma retraite, je revends des cigarettes à des jeunes qui n'ont pas le droit d'en acheter.
Bien sûr, mamie prend un petit bénéfice au passage, mais les jeunes jouent le jeu, tout le monde est content.
Bah, je fais pareil avec l'alcool, je fais mon petit business quoi. Allez, tiens.
Mais mamie garde la tête froide, elle a une réunion à l'école de sa petite fille où seront abordés les dangers de la drogue sur l'organisme.
Avec un peu de chance, ils vont me dire où c'est qu'on peut trouver des dealers. Ça paye mieux. Hein.
Grève partout au Groland. Emmanuel Macron s'est dit prêt à tenir jusqu'au bout grâce au télétravail.
Grève RATG, je m'en fous, je prends pas le métro. Grève SNCG, je m'en fous, je prends pas le train. Grève Air Groland, je m'en fous, j'ai un avion privé. Grève générale, je m'en fous. Je ferai tout par Skype. Allô chérie ? T'es coincé par des gilets jaunes ? Je m'en fous, j'allais déjà sur YouPorn. Oui, non, tout va bien, oui. Oui, je télétravaille, moi. Oui, bon courage. Oui, je t'embrasse.
Les concertations sur l'allongement de l'âge de la retraite ont commencé. Et comme l'avait promis l'exécutif, tout le monde sera écouté et du lest sera lâché dès que possible pour satisfaire le plus grand nombre, comme on peut déjà le voir lors de cette première déclaration d'Emmanuel Macron.
Dans un souci d'apaisement et preuve de notre bonne volonté sur le sujet des retraites, j'ai décidé, en accord avec moi-même, de faire un geste en faveur des 25% des ouvriers les plus pauvres qui, à 62 ans, sont déjà morts. Pour eux, l'âge de départ à la retraite ne bougera pas. Je m'y engage solennellement. Je vous remercie.
Et des gestes comme cela, il y en aura beaucoup d'autres, à n'en pas douter. Et avec le 49.3.
Get your roots and score by coming here and doing some motherfucking music.
J'entame la journée dans le col, tard déçu de la veille. Comme d'hab, je réveille chacune des blessures et le cul de la vieille. J'attaque la journée comme un père de famille, me force à sourire, même si la vie est plus salope que le maire de Paris. Je dépose ma chère à l'école, va faire un tour sur le réseau. Trop de j'aime de pomme, y'a de quoi payer, vas-y mets le son. Plus petit freestyle, en chien sans nid fiscal. Même si on froisse, on retourne pas nos vestes, mais des petites salles. On porte nos sacs de ciment, pour ça qu'on sert le masque. Pas de taf, j'ai que ma zik à vendre ou des fausses Air Max. Poids levé, tu sais lequel, lésion dans vos serpasses. Trop de pression, manque d'oseille, on aggrave nos séquelles. Pompeur n'écoute pas de près, tu pourrais te prendre une faciale. Je ramène pas du frais, mais du glacial à 2 degrés. Si elle suce, y a la réussite qu'on aime les gâteries. Si l'amour ressuscite, dis-lui qui suicide, on est déjà pris.
J'entame ma journée par un verre de rhum. Là je traque mon cerf de sport. On perd le nord, mais ça c'est surtout pas ce qui pèle dehors. Nous on est pâle, on est gros, mais comme des têtes de mort. Pendant que le bondé du village tripote sa graisse de porc. Pète le score, tu peux chnicave mon sexe fort. Baisse le store, car pour l'instru ça sera une scène de viol. Ma tête est pleine de drogue, alors mon frère je cogne. Le chétal sort de mon corps pendant que les vierges dorment. Écoute ma mère de fort, nous on veut faire de l'or. Mais je vois ma mère qui devient folle depuis que la terre me porte. Allume le micro, le préamp et puis mon texte sort. J'entame ma journée café clope et je mets ma paire de groll. Barbe rousse et Jeff ont déjà roulé cette herbe folle. Trêve de com, taille de gnôle avec une bête de go. J'entame ma journée de travers, je ne suis pas très peu pro. Baroud en Suisse pour ce criave des grecs à 13 euros. Laisse-moi dormir ou laisse la mort rire, on sait ça, tu l'as. Laisse-moi dormir, gros, laisse la mort venir, j'suis déjà plus là. Déjà plus là. Laisse-moi dormir, gros, laisse la mort rire, on sait ça, tu l'as. Laisse-moi dormir, gros, laisse la mort venir, j'suis déjà plus là. J'entame ma journée comme un plaidard de chez moi. Un pétard, c'est quoi? Je suis de ceux qui se lèvent tôt pour rejoindre chez dans l'empêloir. La tête dans le pâté, je reste dans le vague et peine à jacter. Je lâche des perles, je crache mes glaires que les pétards s'éloignent. J'ai la joie de vivre dans le casque, de trois rires dans le sac. Si je te crois, je tire dans le tas, je suis la petite caille des doigts. J'annonce la couleur, alors ne parle pas de rap dès le matin. J'ai du chagrin, je balancerai ma douleur en freestyle dès le soir. À côté de mes pompes, frère, j'irai terminer à Genève. Apporter le démon devant l'antipop et faire crier la chienne. J'entame ma journée comme un gosse perdu, je bosse même plus gros. Je perdure dans ce que je fais apprendre le merdier avec. Je vais lâcher du lest, casser du verbe en immersion. Si je réponds pas, poto, c'est que je n'ai pas de cellulaire. J'entame ma journée comme quand l'équipe part en tournée. Speed en stress, et pour le reste, on verra. J'entame ma journée comme un pauvre flagole, ma fin de pétard. Un renard crevé dans la gorge, et sur mon pull, l'odeur d'alcool et du parfum de pétasse. Une enclume dans mes pensées, je suis la moisie. Je me fous de me lever la tête en cul tant que c'est dans celui de ma voisine. Et ce qui se passe, sourire, le mien est dans le fond du fleuve. Mes larmes ne me font plus souffrir depuis que ton mère au fond du feu. J'ai l'art de faire la tronche, je suis dans une veste horrible. L'âme d'un poète, tatouage de routier, zoom sur des fesses horribles. Aïe, un talent or qu'on referait pas gras. Je pleure peu, mais t'es avec la peur qu'on le referait pas le gras. La rime pour oublier la semaine de taf.
Alors ça veut dire qu'on enchaîne une vie de travail avec la mort et on n'a pas le droit de vivre, nous ?
Vous auriez travaillé jusqu'à 65 ans ?
Je ne pense pas, non. Parce que pour les meilleures années, c'est justement quand on est encore jeune.
Mais 65 ans, c'est pas possible. Surtout enseignant, avec des petits, on devient fou. Hein. C'est pas possible. De toute façon, les mémés maîtresses, comme on disait à l'époque quand on manifestait, c'est pas possible, les mémés maîtresses.
Ah non, j'aurais pas continué, non. Non, non, non.
Pourquoi ça ?
C'était trop dur, trop fatigant. Et puis, on me demandait la même chose que je faisais à 20 ans et je pouvais pas.
Reporter l'âge de départ à la retraite à 65 ans, vous auriez travaillé jusqu'à 65 ans ?
Non, dans le travail pénible, j'étais à la direction de la propreté, le travail pénible, c'est impossible de travailler.
Alors ça veut dire qu'on enchaîne une vie de travail avec la mort et on n'a pas le droit de vivre, nous ?
Vous voyez travailler jusqu'à 65 ?
Non, pas du tout. Physiquement, le stress, de plus en plus, les conditions sont quand même de plus en plus dures dans les entreprises, étant donné qu'on demande toujours des résultats. Donc... on garde un peu de temps pour vivre avec nos enfants et nos petits-enfants.
Il est ridicule. Il y a des jeunes qui sont au chômage, autant faire travailler les jeunes et mettre les vieux à la retraite à 60 ans.
Que c'est de la connerie, son histoire de plancher à 65, voire plus.
Il y a quand même les amis, il y a quand même la famille en province. Enfin, je veux dire, la vie n'est pas qu'à se résumer qu'au travail.
On est bien, on est bien.
Les soignantes quand même à la base, hein. Donc c'est des métiers difficiles. Je pense que 65 ans, ça fait beaucoup. Moi je vois 60 ans, je peine. Donc je me vois pas aller jusqu'à 65 ans. Hein.
55 ans, c'était parfait. Parce que jusqu'à 62, 3, on est bien en forme, après on est malade.
Revenir à 60 ans et 40 annuités de cotisation.
37,5.
Je crois que le monde du travail a le droit de se reposer, a le droit de vivre.
Alors l'âge idéal pour moi, c'est effectivement de partir le plus tôt possible, c'est-à-dire aux environs de entre 50 et 55 ans. Ça fait des places pour les jeunes. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a un tas de jeunes qui cherchent du boulot. L'idéal, ce serait pas plus de 62. Et pourquoi pas faire des, comme il y a certaines mesures, faire des retraites progressives à 60 ans, à travailler 50 ou 60% de son temps ou 80%.
60, 61 ans, surtout si on a fait des métiers pénibles.
À 60, c'est bien, qu'après on est tout cassé.
classique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut faire une réforme des retraites, on ne dit jamais « je veux baisser les droits à retraite », on dit toujours « le système est en danger, voilà comment le sauver, il n'y a qu'une seule solution, c'est la mienne ». On a tous en tête un argument qui a sa part de conviction, de dire on vit plus vieux, il faut donc travailler plus longtemps.
Argument qu'on entend tous les jours voilà. dans la bouche des ministres, par exemple.
Alors, ce que j'ai voulu dire, c'est que cet argument, il avait déjà servi et plus que servi. C'est-à-dire que, d'abord, les réformes précédentes, parce qu'on disait, vous parliez de se projeter. En fait, les réformes précédentes, elles sont même pas finies. C'est-à-dire que la durée de cotisation, elle est programmée pour aller jusqu'à 43 ans pour les gens nés en 1973 ou 74. C'est-à-dire que la dernière réforme, celle de Marisol Touraine, elle est même pas encore finie. Et le passage de 60 à 62 ans est très récent en réalité. Et donc ça, on l'a pas encore absorbé, le marché du travail l'a pas absorbé. Et ces réformes, les réformes précédentes, elles ont été plus vite que les gains d'espérance de vie. C'est-à-dire qu'effectivement, l'espérance de vie augmente, de moins en moins vite, mais elle continue à augmenter. Simplement, les réformes précédentes ont demandé plus d'efforts que les gains d'espérance de vie. Le système n'est pas en danger. En ce moment, il est équilibré. Il y aura un déficit dans les 10-15 prochaines années. Ça dépend comment on le compte. L'État a très envie de se désengager financièrement du système un peu plus, donc de récupérer de l'argent pour ces histoires de finances publiques. Et donc, il y a un déficit qui est prévu dans les 10-15 prochaines années. On pourrait discuter le chiffre, mais en gros, si on prend le chiffre d'Elisabeth Borne, 12 milliards, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup.
Mais vous dites que le système de retraite, il collecte plus de 300 milliards d'euros par an. Donc c'est ça. Un tout petit morceau.
À l'échelle du système des retraites, c'est petit, ça le met absolument pas en danger. Si vous avez un découvert de 100 ou 150 euros, vous êtes embêté, mais vous n'êtes pas en danger. Pour le système des retraites, c'est le même ordre de grandeur. Concrètement, trouver 12 milliards, si on les fait payer aux personnes qui sont aux portes de la retraite, c'est ce qui est prévu en fait avec l'âge de départ. Donc aux personnes entre 55 et 62 ans, c'est beaucoup parce qu'on va leur demander un très gros effort. Si on les faisait payer à tout le monde, c'est pas énorme, c'est pas grand-chose. Il faudrait moins d'un point de cotisation pour trouver ces 12 milliards d'ici 2027. Tout au long du XXe siècle et au début du XXIe siècle, il y a eu des réformes de durcissement, de contrôle des dépenses, mais globalement, il y a une amélioration. Globalement, la retraite s'allonge, globalement, le niveau de vie des retraités progresse, et on atteint ce stade où la retraite, on maintient à peu près son niveau de vie, et on a un temps où on n'est pas en emploi, on peut faire d'autres choses, etc. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la retraite pour les 30 prochaines années? Et là, le projet du gouvernement, c'est de dire, tant qu'il y en a qui peuvent encore servir, vous retournez au boulot. On raccourcit donc la période de retraite jusqu'au moment où on est sûr que vous puissiez plus servir. Et puis, on va avoir aussi un risque de décrochage du niveau de vie des retraités. Et le sens de la réforme du gouvernement, c'est que non seulement ça s'est stabilisé, mais il voudrait que ça diminue plus vite. Et là, il y a vraiment un tournant historique, c'est vraiment on suit ce chemin-là. Et ça, c'est un truc qui change, c'est-à-dire que le gouvernement aujourd'hui, il n'est pas en train d'essayer de contrôler l'explosion des dépenses, elles n'explosent pas, elles sont stables, même à la baisse. Ouais. Il est en train de dire, il faut descendre plus vite, il faut raccourcir davantage la durée de la retraite et stabiliser en gros le montant des pensions. Plutôt que de travailler, par exemple, l'emploi des seniors, qui a une vraie difficulté, c'est-à-dire qu'avant la retraite, on a quand même beaucoup de personnes qui ne sont plus en emploi. Et là, c'est un peu la version difficile, mais qui pourra avoir des effets tout à fait positifs en termes d'emploi, de niveau de vie, etc. On va faire la version facile, c'est-à-dire de repousser la barrière. Mmh. Et donc, ceux qui pourront tenir tiendront, tant mieux pour eux. Ou tant pis pour eux. Et ceux qui ne pourront pas tenir, on en fait peu de cas. Et en gros, c'est à peu près 3 personnes sur 10, un gros tiers de la population, qui ne passe pas de l'emploi à la retraite. Et pour qui même, on va durcir les conditions. Il y a un sas donc, de précarité au RSA, etc. Et une des mesures juste avant, c'est la réforme du chômage, où on a dit aux seniors, vous pouviez avoir jusqu'à 36 mois d'indemnisation de chômage. À partir de février, c'est plus que 27 mois. C'est-à-dire qu'avant même la réforme des retraites, alors qu'on va repousser l'âge, on a diminué la protection pour ceux qui tiendront pas jusque-là. Mmh. Donc il y a vraiment cette idée de durcissement. C'est pas une réforme qui vient d'un diagnostic sur le système des retraites. Le gouvernement s'engage dans cette réforme en fait avec deux objectifs. Le premier, c'est en gros travailler plus pour produire plus. Il se dit, ça mettra plus de gens sur le marché du travail, ça créera un peu plus de richesse, de PIB. Et puis, donc c'est une réforme du marché du travail. Et puis le deuxième objectif, c'est faire des économies. En fait, le gouvernement, dans sa politique économique, ça Bruno Le Maire le dit depuis des mois, sa stratégie, c'est baisse des prélèvements obligatoires, baisse d'impôts notamment sur les entreprises, donc la taxe d'habitation un peu, mais sur les entreprises, la baisse des impôts de production. Donc ça, ça a déjà coûté une quinzaine de milliards chaque année depuis 2020. Et puis en 2023-2024, ça va être encore 8 milliards chaque année. Et donc, il s'est engagé, pour pas que ça creuse trop le déficit, en face, à faire des économies sur les dépenses publiques. Donc, du côté des fonctionnaires, on est un peu à l'os, il ne peut plus faire beaucoup d'économies. Et donc, la stratégie, c'est de faire des économies massives sur les retraites. Et donc, la réforme des retraites, elle vient là. Il faut faire des économies sur les retraites pour équilibrer la baisse des impôts de production. C'est écrit tel quel dans le projet de loi de finances de 2023. C'est écrit comme ça dans les documents transmis à la Commission européenne. Et du coup, la question des retraites, elle vient un peu dans la voiture du passager, finalement. Au final, le gouvernement se tourne vers le système des retraites et essaye de dealer avec ça. Mais ça ne vient pas vraiment d'un diagnostic ni sur le travail, ni sur l'emploi des seniors, ni sur les conditions de départ à la retraite.
Mediapart.
Sur les plateaux de BFM, comme un peu partout sur les ondes, les nouvelles en France sont les mêmes, paraît que la révolte gronde.
De toute la gauche bat le pavé, même le PS est dans la rue, longtemps que c'était pas arrivé, Olivier Faure est tout perdu.
Mais à Matignon, à l'Elysée, on lâche rien, on reste debout, hasta Marlène Schiappa siempre, oui on se battra jusqu'au bout.
Que les gauchos viennent nous chercher, car à toi Philippe Martinez, on est courageusement cachés derrière les cordons de CRS.
On lâche rien, 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 on lâche rien.
C'est pas trois Gaulois réfractaires qui vont nous faire la leçon.
D'après les chiffres du ministère, en fait c'est plutôt 3 millions.
Mais même contre la France entière, c'est nous tout seuls qu'on a raison.
On lâchera rien, pas un copec, pas une année de cotisation.
D'abord si t'aimes pas notre loi, c'est que tu n'as pas bien compris. Heureusement on est les rois pour ce qui est de la pédagogie.
Les sondages donnaient en janvier 55% d'opposants. On retourne tous à la télé, ça passe à 80%.
On lâche rien, 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 on lâche rien.
Le 7 mars on bloque le pays et on brûle des portraits de Macron. Merde, ça c'est un trac de les filles que j'ai pris sans faire attention.
Macronistes de tous les pays, unissons-nous contre ces despotes.
Bon, on est 14 et demi, mais on a Olivier Dussopt.
Tous solidaires avec nos frères, les PDG du CAC 40. Solidarité avec Patrick Pouyanné. Solidarité avec Vincent Bolloré. On est là, on est là, même si Ruffin le veut pas, nous on est là. Pour le bien des actionnaires et pour qu'il y ait moins de fonctionnaires, même si Ruffin le veut pas, nous on est là. CGT, t'es foutu, le MEDEF est dans la rue. CGT, t'es foutu, le MEDEF est dans la rue. Martinez, si tu savais, ta merguez, ta merguez. Martinez, si tu savais, ta merguez, où on se la met. Aucune opposition. Non, 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 à la bordélisation.
On lâche rien, on lâche rien. 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 On lâche rien, on lâche rien.
Ah mais je crois qu'on est dans l'impasse là.
Ouais. Ah puis on est que 4 là hein, en fait hein. Bon ouais.
On se fait un brunch ?
Ah non, moi j'ai un conf call là, désolé.
En revanche, les loulous, hein, on se fait un débrief à ça.